Salut, c'est Steven Jambeau. Vous écoutez l'Atelier des médias. On est ensemble pendant 20 minutes à la radio, un peu plus si vous avez la bonne idée d'écouter notre podcast. La Chine est de plus en plus présente en Afrique, dans le domaine économique bien sûr, mais aussi dans le secteur des médias. Pékin déploie ses radios, télévisions et agences de presse sur le continent et n'hésite pas non plus à intervenir sur la ligne éditoriale de médias africains. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec mon invité.
L'Atelier des médias.
RFI. Bonjour Selma Mioubi.
Bonjour à vous, bonjour à tous.
Vous êtes docteur en géopolitique, enseignante à Sorbonne Université et vos travaux portent notamment sur les stratégies d'influence médiatique en Afrique de l'Ouest. Je le dis en introduction, la Chine n'est pas seulement présente dans le domaine économique et commercial sur le continent africain, elle y implante également ses médias. Peut-être peut-on commencer par les présenter. Il y a notamment RCI, Radio Chine Internationale. Qu'est-ce que cette radio ?
Radio Chine Internationale, c'est la radio d'État du pouvoir chinois, donc financée et dirigée par Pékin, qui donne les grandes orientations stratégiques à mener par cette radio. Elle est disponible dans à peu près tous les continents, en fait, à travers des relais à ondes courtes, mais aussi des relais FM, du coup, qu'elle a implantés sur le continent africain, et notamment en Afrique de l'Ouest, dans cette dernière décennie.
Et donc, elle a des journalistes, des correspondants, qui sont dans plusieurs pays à travers le monde, et notamment en Afrique de l'Ouest, et un bureau à Dakar.
Tout à fait. Alors, au tout début de l'implantation, au début des années 2010, il y avait un correspondant pour toute l'Afrique de l'Ouest, donc qui était envoyé directement de Chine. Et petit à petit, la Chine a souhaité approfondir son ancrage local et donc Pékin a financé l'ouverture d'un bureau avec des locaux à Dakar, où Radio Chine Internationale a recruté une équipe de journalistes 100% sénégalais, donc qui prépare des programmes en français depuis Dakar.
On y reviendra. Il y a également une télévision, un réseau même de télévision, CGTN, que l'on capte comment ? Par satellite ?
Tout à fait. China Global Television Network, donc c'est CGTN Afrique. Donc il y a Afrique et Africa, donc en français et en anglais. Et on peut capter cette télévision par satellite. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que la Chine, justement, s'implante aussi sur le marché des télécommunications, notamment via l'entreprise Star Times Africa. Et via cette entreprise, la Chine propose des bouquets satellites et donc fournit les populations en Afrique de l'Ouest en boîtier pour capter des chaînes satellites où ils peuvent recevoir CGTN notamment.
Sur CGTN, ce sont des programmes originaux, des programmes traduits, est-ce qu'il y a des productions africaines également ?
Tout à fait, il y a des productions africaines, il y a des journalistes africains qui sont recrutés. Et on va dire c'est un peu mixte. À la fois, il y a des productions et des images qui sont tournées localement. Et à la fois, il y a des journalistes chinois qui parlent français et qui interviennent également pour faire des sujets à la télévision.
Il y a également une agence de presse, l'agence Chinois, donc Chine Nouvelle, qui produit des dépêches comme l'agence France Presse, par exemple.
Absolument, Xinhua produit des dépêches et d'ailleurs on peut dire qu'elle a un rythme de production très très important. Et ce qui est intéressant de noter avec Xinhua, c'est que elle a une stratégie de gratuité, contrairement aux grandes agences de presse telles que l'AFP, Reuters ou Associated Press qui sont payantes. Et donc Xinhua diffuse ses dépêches complètement gratuitement à tous ceux qui le souhaitent, ce qui favorise une reprise très importante des dépêches chinoises dans des médias en Afrique de l'Ouest.
Alors on vient de faire une présentation globale de ces différents médias chinois présents en Afrique. Est-ce qu'on a une idée des moyens que la Chine déploie pour ces différents types de médias à destination spécifiquement du continent africain? J'imagine que ça se compte en centaines, en millions d'euros.
Oui, ça se compte très certainement en centaines de millions d'euros. Le problème, c'est qu'il y a une certaine opacité au niveau de ces informations concernant la Chine. Et donc, il est quand même très difficile d'avoir accès à des informations fiables et certaines. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour avoir échangé avec notamment des diplomates chinois en Afrique de l'Ouest, on sait que pour venir de Pékin à Dakar, par exemple, tout simplement déjà d'un point de vue très pragmatique, le billet d'avion coûte très cher. Donc on peut se dire que rien que l'envoi, par exemple, d'agents, de correspondants depuis Pékin, bah, ça coûte quand même une certaine somme pour les médias internationaux chinois. De plus, il y a eu cette entreprise donc d'ouvrir des bureaux et pour avoir visité les studios de Radio Chine Internationale à Dakar, ils sont dotés d'un matériel de pointe, de très très haute technologie que j'ai rarement vu dans des studios radio. Il y a aussi d'ailleurs des locaux pour préparer des images pour la télévision. Donc, voilà, vraiment du matériel de pointe. Et par ailleurs, donc, il y a ces équipes aussi locales. Donc, on peut imaginer que la Chine, effectivement, débourse quand même de certaines sommes. Malheureusement, on n'a pas les chiffres précis. Et je voudrais juste ajouter aussi qu'il y a toujours dans cette stratégie de montrer la Chine sous son meilleur jour, une Chine bienveillante et solidaire des pays africains, il y a aussi une stratégie de don. C'est-à-dire que les médias chinois ont tendance à offrir, à donner du matériel à des rédactions partenaires. Ça peut être des imprimantes, des ordinateurs, des enregistreurs, par exemple, pour des radios locales, etc. Donc, on peut imaginer quand même qu'il y a un investissement assez important derrière tout ça.
Un rôle de coopération, du coup. Donc, ce que vous nous expliquez, d'une certaine façon, c'est que ces médias chinois sont déployés en Afrique avec un agenda derrière. Ce n'est pas totalement fait au hasard. Et cet intérêt, eh bien, il n'est pas totalement nouveau. Il remonte même aux années 1950, si je comprends bien. Déjà, à cette époque-là, eh bien, la Chine avait des visées sur l'Afrique en termes de communication.
Déjà à la période, donc ce qu'on appelle un peu la Chine maoïste, et en période de guerre froide dans les années 50-60, la Chine a entamé un rapprochement très important avec des pays d'Afrique de l'Ouest, et on va dire dans un premier temps avec les pays les plus socialistes, comme le Mali notamment à l'époque. Et en fait, il y a eu cette stratégie de montrer que la Chine était solidaire de l'Afrique, que la Chine a soutenu les mouvements de libération, les mouvements de décolonisation dans un certain nombre de pays africains et notamment en Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, toute cette histoire, tout cet héritage historique, il est repris dans les contenus des médias chinois et on peut parler d'une manipulation des représentations liées à cette époque. Donc, vous savez, cette époque où on parlait de tiers-mondisme, du mouvement des non-alignés, etc. Donc, tous ces pays qui ne souhaitaient pas s'aligner aux impérialismes anticolonialistes. Donc, la Chine aujourd'hui rappelle cet héritage et explique que, eh bien, historiquement, l'Afrique et la Chine sont liées, sont amies, car elles ont partagé ce passé commun, ces combats communs de lutte contre le colonialisme. Et donc, que c'est logique qu'aujourd'hui, la Chine et l'Afrique soient des partenaires importants.
Alors justement, on peut peut-être écouter un extrait récent d'un journal télévisé de CGTN, donc la télévision, en avril 2020. On est, je le rappelle, en avril 2020, au début de la pandémie de Covid-19.
Que pensez-vous des accusations de discrimination raciale à l'égard des Africains ?
Mais ce qui nous préoccupe ces derniers temps, c'est qu'il y a des vidéos et des photos qui ont été postées sur les réseaux sociaux, plus particulièrement Facebook, WhatsApp, comme quoi les Africains sont maltraités en Chine. Mais si vous regardez minutieusement ces photos, vous vous rendez rapidement compte que ces photos, certaines, beaucoup d'entre elles ont été retouchées. Et tout ça là, c'est dans le seul but de nuire à la bonne relation qui existe actuellement entre la Chine et les pays africains.
Le 14 avril, le ministre nigérian des Affaires étrangères a tenu une conférence de presse pour démentir ces récentes rumeurs. L'amitié sino-africaine est solide et aucun incitant ne pourra l'affecter. En tant que partenaire de coopération stratégique, la Chine et l'Afrique doivent renforcer leur coordination et coopération face aux défis que représente le Covid-19.
Donc là, on entendait un entrepreneur africain vivant en Chine, interviewé par une journaliste de CGTN, la télévision internationale chinoise, avec un discours sur l'amitié sino-africaine, je cite, « solide ».
Tout à fait. Et si on écoute bien ce qui est dit, notamment par la journaliste à la fin du sonore, on peut comprendre qu'en fait, il y a un peu une accusation induite, en fait, notamment de médias étrangers ou d'autres puissances qui tenteraient de décrédibiliser ou de dénigrer les relations sino-africaines. Et donc, c'est pour ça qu'elle insiste en disant que peu importe les incidents et les attaques extérieures, donc de personnes qui jalouseraient la superbe relation sino-africaine, cette relation est solide.
Et on comprend aussi que ce positionnement sur la Chine qui souhaite travailler donc sa représentation sur le continent et qui fait de ces médias de véritables outils de communication géopolitique à part entière.
Tout à fait, il faut vraiment prendre en compte que la Chine elle a des visées globales, des ambitions qui sont globales et pas que des volontés d'un ancrage local. À travers cette implantation, notamment en Afrique de l'Ouest, ce que souhaite la Chine, c'est proposer une sorte de deal avec les gouvernements africains. Ce deal, cet accord, c'est que les médias chinois s'engagent à diffuser une image la plus positive possible des gouvernements partenaires ouest-africains. Et en échange, ces gouvernements doivent soutenir les intérêts diplomatiques de Pékin. Et ces intérêts diplomatiques, ils sont pas seulement en Afrique, ils sont vraiment globaux, à savoir l'idée de la Chine unique. D'accord. Donc on voit, par exemple, on entend dans les médias chinois des personnalités politiques africaines qui s'expriment sur le fait que Taïwan ou Hong Kong font partie de la Chine unique et que voilà, toute revendication, volonté d'indépendance n'a pas lieu d'être. Ou encore, il y a des discours qui légitiment le fait que la Chine soit la grande puissance du continent asiatique, parce qu'il ne faut pas oublier que la Chine, elle a des concurrents asiatiques, notamment par exemple l'Inde ou le Japon, qui tentent aussi de s'implanter en Afrique, de favoriser leur relation avec les pays du continent. Donc la Chine, elle est aussi en concurrence avec, on va dire, son voisinage. Hein. Donc voilà, c'est ce genre d'ambition géopolitique que tendent à...
Que la Chine tente de déployer au quotidien.
Absolument.
Alors, la Chine ne déploie pas seulement ses médias sur le continent africain, elle fait également des prises de participation dans des groupes de médias africains existants, notamment au Kenya et en Afrique du Sud.
Ça, c'est la nouvelle étape, le nouvel aspect de l'implantation médiatique chinoise. Maintenant qu'elle a implanté ses propres médias, elle tente d'investir au capital de certains médias, et notamment, vous avez bien cité le groupe Independent Media en Afrique du Sud. Et il y a déjà eu, d'ailleurs, des interactions ou en tout cas des agissements de la part des investisseurs chinois dans ces médias pour clairement censurer ou en tout cas dépublier certains articles qui auraient pu offenser les intérêts de la Chine et notamment concernant le cas des Ouïghours.
Donc là, il touche clairement à la ligne éditoriale de ces médias-là.
Tout à fait, c'est ça l'objectif en fait, c'est de contrôler au maximum les narratifs, les arguments, les idées qui vont être diffusées à travers les médias au sujet de la Chine.
Cette stratégie, disons, d'entrée dans les médias est vraiment très très politique puisqu'elle a été décidée en 2007 au 17e congrès du Parti communiste chinois.
Oui, il faut bien comprendre que les médias internationaux chinois, ils sont contrôlés de manière très importante par le pouvoir en place. Et quand je dis contrôlé de manière très importante, il y a même le dirigeant chinois Xi Jinping lui-même qui a réitéré, il y a encore de cela quelques mois, que ces médias internationaux devaient être la voix de la Chine et devaient servir les intérêts de la Chine. Et donc il y a vraiment une action directe. Il y a même d'ailleurs au sein du Parti communiste chinois qui est au pouvoir, un département qui s'appelle département de la propagande et qui dirige clairement les orientations stratégiques et donc les discours qui sont diffusés par ces médias. Et il faut savoir que normalement, il y a une vérification systématique de tous les contenus qui vont être diffusés par des agents du Parti communiste chinois travaillant dans les rédactions directement.
Donc ce que vous expliquez, c'est que la priorité dans ces médias chinois n'est pas de donner la priorité au direct. Les programmes souvent doivent être approuvés ou passés par Pékin avant d'être diffusés.
Tout ce qui concerne, on va dire, l'actualité politique, effectivement, doit passer par Pékin avant d'être diffusé ou publié. En revanche, on observe un peu plus de liberté en ce qui concerne les sujets de société, par exemple. Et c'est notamment le cas sur RCI Sénégal, donc avec tous les programmes qui sont préparés par l'équipe de journalistes à Dakar. Pour le coup, voilà, ils font des émissions très axées sur des sujets de société ou des sujets historiques. Et là, on voit quand même qu'il y a une certaine liberté de ton. Mais il y a quand même toujours la directrice des programmes chinoises qui est dans les locaux, dans les studios, et qui va quand même vérifier et faire attention que le discours convienne.
Alors justement, cette directrice des programmes, je vous propose qu'on l'écoute.
Bonjour le Sénégal et bonjour tous ceux qui nous écoutent sur Radio Chine Internationale 102.9. À Dakar et à Saint-Louis, 106.6 à Kaolack et Ziguincha. Moi, je suis Bintou Fall, c'est mon nom sénégalais, mais je m'appelle au fait Tai Xueqing, c'est mon vrai nom parce que je suis chinoise et je suis la directrice des programmes de Radio Chine Internationale Sénégal. Je vous souhaite à vous tous pour l'année 2016 qui vient juste de commencer santé, bonheur, beaucoup de succès, beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié et beaucoup d'argent, beaucoup de halis. Et n'oubliez pas de continuer à nous écouter sur Radio Chine International. Merci.
Donc là, on entend la directrice des programmes de Radio Chine International se présenter avec un nom sénégalais, utiliser même un mot wolof pour parler de l'argent. C'est un véritable positionnement, en fait, une volonté d'intégration aux yeux du public ouest-africain.
Cette présentation, elle n'est pas du tout anecdotique, elle est même très représentative de la stratégie chinoise en Afrique de l'Ouest. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a une véritable stratégie d'intégration et on l'observe à travers les journalistes chinois, les correspondants chinois qui sont envoyés en Afrique de l'Ouest, mais aussi même quand on rencontre des diplomates chinois en Afrique de l'Ouest. Parfois, lors de cérémonies officielles, ils s'habillent en tenue traditionnelle du pays où ils sont, ils prennent des noms locaux. Donc c'est une stratégie qu'on peut qualifier d'efficace car elle fonctionne. Et pour avoir rencontré des journalistes ou des patrons de médias en Afrique de l'Ouest, s'il y a une chose qui leur plaît, ils sont séduits en fait par cette volonté d'intégration et le fait que les Chinois fassent un effort pour apprendre des mots en langue locale, en l'occurrence le Wolof, ou qu'ils prennent des noms traditionnels, c'est quelque chose qui est assez séducteur. Mais bien sûr, je tiens quand même à préciser dès maintenant que les populations locales, que ce soit les professionnels des médias ou les populations, ne sont pas non plus dupes sur les véritables intentions de la Chine.
Vous écoutez toujours l'atelier des médias de RFI. Je suis avec Selma Mioubi, qui est docteur en géopolitique à Sorbonne Université. On parle donc du positionnement chinois dans l'écosystème des médias en Afrique. Quand on parle de cela, évidemment, eh bien, on se dit que la BBC et France Média Monde, donc RFI et France 24, sont concurrencés sur leur plate-bande. Et évidemment, on peut s'interroger et on peut peut-être déjà commencer par rappeler qu'il y a une différence entre des médias publics et des médias d'État. Les médias chinois sont des médias d'État, c'est-à-dire avec une direction et une façon de produire et de se positionner par rapport à l'information qui est dictée par un agenda politique décidé en haut lieu.
Oui, il y a quand même une différence dans le sens où, par exemple, sur RFI France 24 ou alors sur la BBC, on n'a pas, par exemple, les dirigeants britanniques ou les dirigeants français qui vont tenter d'intervenir directement sur la ligne éditoriale, sur les contenus qui sont diffusés, contrairement à ce qu'on observe dans les médias chinois. Donc, il faut quand même nuancer, effectivement, différencier cette idée de médias d'État et médias de service public, même si il faut quand même préciser que dans l'ensemble, qu'on ait affaire à des médias d'État ou de service public, il y a un certain lien avec le pouvoir en place qui est indéniable.
Mais là, ce qui est très intéressant aussi de regarder, c'est que sur les médias chinois positionnés en Afrique, on ne parle pas ou on parle peu des choses qui fâchent. Par exemple, les questions de corruption sont très peu abordées sur les antennes. On va préférer parler de success story entrepreneuriale, par exemple.
Oui, il y a cette volonté de faire ce qu'on peut appeler du journalisme positif. Donc, c'est-à-dire vraiment de se concentrer uniquement sur les aspects positifs, le développement économique, l'émergence, les entrepreneurs, femmes et hommes, etc. Et ça, alors en un sens, ça peut être apprécié par les populations locales, car effectivement, ce qu'on observe, c'est que bien souvent, par exemple sur RFI ou sur BBC, on traite l'actualité. L'actualité n'est pas toujours rose. Hein. Il y a des crises sécuritaires, il y a des crises politiques et on va en entendre souvent parler, alors que sur les médias chinois, on va en entendre très peu parler finalement. Donc, d'une part, ça peut être effectivement positif de montrer les pays du continent africain sous un meilleur jour, on va dire, mais d'autre part, est-ce qu'on n'assiste pas quand même à un phénomène un peu de désinformation, voire d'occultation de la vérité, en fait.
Donc avec des images qui parfois sont, ou des propos qui sont sortis du contexte.
Absolument, et il y a bien souvent donc des crises politiques ou des crises sécuritaires qui vont être totalement occultées par Radio Chine International ou les autres médias chinois, mais cela dans le but de favoriser les relations entre la Chine et les gouvernements locaux et les pouvoirs en place. En fait, on n'a pas envie de donner une mauvaise image de ces gouvernements locaux, de ces partenaires, pour favoriser les partenariats économiques, par exemple, l'implantation d'entreprises, les échanges entre la Chine et ces pays.
Donc ça, c'est du soft power. Mais a-t-on une idée de l'impact de tout cela et de l'audience de ces médias en Afrique ?
C'est une très bonne question et j'ai longtemps cherché à connaître les audiences de RCI notamment, et en vain. Donc ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, notamment francophone, c'est RFI qui fédère la majorité des audiences. Et il est certain que RCI, par exemple, ne vient pas vraiment inquiéter le succès de RFI, qui est une radio très bien ancrée dans les pays ouest-africains. Toutefois, on peut se dire quand même qu'avec cette stratégie d'intégration, les moyens qui sont mis en place par la Chine, et aussi le fait que la Chine a des projets d'ouvrir des rédactions en langue locale qui ne sont pas utilisées par les autres radios internationales comme RFI et BBC. Et là, je pense notamment au projet de RCI d'ouvrir, de lancer des programmes en Wolof. Donc, on peut se douter que s'il y a un approfondissement en ce sens, les médias internationaux chinois pourraient gagner en popularité. Mais je tiens dès maintenant à faire une précision, c'est que quand on étudie un peu tous ces phénomènes, on se rend compte très rapidement que finalement, la Chine ne semble pas être très préoccupée par les audiences, par la popularité de ces médias internationaux. Le plus important, en fait, c'est une question d'image, de représentation.
D'occuper le terrain aussi.
Absolument. La Chine, ce qu'elle veut, c'est renvoyer cette image et cette représentation que...
C'est une posture.
Pékin a les moyens d'être présent et d'avoir des journalistes et des médias internationaux aussi en Afrique de l'Ouest.
Précisons qu'il y a plusieurs puissances étrangères qui se positionnent dans le secteur des médias en Afrique. On a évidemment parlé de la Chine aujourd'hui, mais il y a également la Russie ou la Turquie.
Oui, la Chine n'est pas seule. En fait, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a un phénomène de puissance, qu'on pourrait qualifier de puissance émergente, qui tente, elle aussi, de développer leurs médias internationaux, et ce, pour maîtriser les informations, les actualités qui vont être en fait diffusées à leur sujet, tout simplement. Donc, on est vraiment dans cette stratégie de... J'ai pas envie d'aller jusqu'à parler de guerre de l'information, mais en tout cas, on est dans une guerre de représentation, ça c'est sûr. Et chaque pays, chaque puissance, dès qu'elle en a les moyens, elle a envie d'être présente en fait dans la sphère informationnelle.
Donc pour la Turquie, par exemple, c'est Anadolu Agency. Merci, Selma Mioubi.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes docteur en géopolitique à Sorbonne Université. Et j'invite celles et ceux qui nous écoutent à lire l'article que vous avez écrit sur le site de la revue des médias de l'INA. Il s'intitule « Quand les médias chinois s'exportent en Afrique ». À bientôt.
Au revoir, à bientôt.
C'est bientôt la fin de cette émission, l'heure de Mondoblog Audio qui donne à entendre les blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Partons au Cameroun où le mondoblogueur Kenfak Diran s'interroge sur ce que deviennent les pièces de monnaie. Car figurez-vous que ces petits ronds de métal sont devenus une denrée très recherchée, notamment les pièces de 50 et 100 francs CFA. Il se dit qu'elles sont très appréciées en Chine.
Les autorités accusent les Chinois de posséder dans plusieurs villes camerounaises les machines à sous dans les salles de jeu qui servent à collecter les pièces de 50 et 100 francs. Les Chinois, en partance pour leur pays, avaient été interpellés plusieurs fois à l'aéroport de Yaoundé en possession de sacs de pièces de monnaie, avait souligné le ministre camerounais des Finances. Il s'agirait selon lui d'un vaste réseau de trafic de pièces de monnaie. D'après l'ISCG, le groupe international d'études sur le cuivre, ce métal est toujours autant prisé à cause de sa valeur marchande et se revend à prix d'or à plus de 6000 euros la tonne. Ce qui pourrait expliquer pourquoi les pièces de monnaie camerounaises sont clandestinement exportées. Les Camerounais essayent de s'adapter à la pénurie. À cause de la rareté des pièces de monnaie, les commerçants en profitent pour alimenter l'inflation. Certains prix sont arrondis lorsque l'achat dans une boutique ou un magasin nécessite le remboursement de quelques pièces. Et moi, pour remédier à ce manque à mon échelle, je garde toutes les pièces de monnaie que je trouve.
Mondoblog, blogueur.org.
Et puis sachez que vous pouvez toujours candidater pour devenir vous aussi un blogueur ou une blogueuse de RFI. Le concours est ouvert jusqu'au 15 mars. Le thème, toutes et tous, actrices et acteurs du changement. On attend vos candidatures sur mondoblog.org. C'est la fin de cette émission, disponible à l'écoute sur toutes les plateformes et applications de podcast, Spotify, Deezer, Castbox, Podcast Addict ou encore Apple Podcast. Si vous aimez l'atelier des médias de RFI, donnez-nous 5 étoiles sur ces applications d'écoute, cela nous permettra d'être visibles et donc encore plus écoutés. Écrivez-nous via les réseaux sociaux ou à l'adresse atelier@rfi.fr. Merci à Simon de Creuse qui a réalisé comme chaque semaine cette émission. Merci aussi à Juliette Labracherie et Pauline Linard-Casanave qui ont piloté Mondoblog Audio. Rendez-vous dans une semaine donc pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.